Bonjour à tous. Si vous n'avez jamais chanté dans une chorale, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette chanson est difficile. Il y a un changement de tonalité. Les autres parties ne font pas les harmonies. Magnifiquement interprété. Vraiment très bien, surtout pour une petite chorale. Il y a beaucoup de travail à accomplir. Je dois donc enchaîner. Le sermon d'aujourd'hui était parfaitement adapté et n'aurait pas pu mieux convenir à ce que nous allons aborder cet après-midi. Cela fait maintenant 8 jours que nous partageons ce moment ensemble. Nous voici arrivés au dernier message, au dernier office, au dernier grand jour. Cela deviendra plus positif au fur et à mesure. Cependant, c'est un peu doux et amer, n'est-ce pas? Notre temps ensemble à la fête touche à sa fin. Toutes les personnes que nous avons rencontrées, les amitiés, les expériences, la communion, le service, la possibilité de nous éloigner des distractions de notre vie, tout ce qui est, nous a permis et nous permet de ne pas nous concentrer sur le monde qui nous entoure, mais plutôt de nous concentrer les uns sur les autres, sur la vérité de Dieu, sur notre apprentissage. Nous nous sommes réjouis. Nous avons appris. Je dirais que nous avons tous grandi spirituellement et physiquement. Nous avons travaillé. Au début de la fête, j'ai dit, nous devons travailler. Nous devons travailler dur pour pouvoir faire tout ce que nous devons faire, pour pouvoir arriver là où nous en sommes aujourd'hui et aller jusqu'aux boutiques. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la fête n'était pas pour vous et moi. Elle n'était qu'un aperçu pour vous et moi, afin que nous puissions accomplir tout ce qui est en notre pouvoir, non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir, afin que vous et moi puissions enseigner ce que nous imaginons actuellement. Nous imaginons tant de choses, et nous avons vécu tant de choses, mais le monde va pouvoir faire ces choses. Cela devrait nous enthousiasmer. Toute la joie, l'excitation, tout ce que vous et moi avons pu avoir, nous le faisons vraiment pour le monde. Je sais que certains d'entre vous espéraient, l'un d'entre eux. En fait, nous espérions tous que le royaume commencerait dès le début de la fête, ou lors du dernier grand jour. Vous voulez savoir quelque chose d'amusant? Je transmets une version de ce message depuis 2019. Bon, cela fait quelques années. Il y a donc eu quelques changements, mais le message est pratiquement le même. Car en 2019, nous pensions que Christ allait revenir pendant la fête, ou le dernier grand jour, ou où que nous soyons. Je dois me replonger dans mes souvenirs. Et je me suis dit, vous savez quoi? Non, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de la fête, nous devons lever les yeux et aller de l'avant. 2019. Je ne dis pas cela pour vous décourager. Je dis cela pour que nous repensions à tout ce que nous avons appris depuis 2019. C'était avant la COVID. Il y avait un monde avant la COVID. Regardez autour de vous dans cette salle aujourd'hui. Nous avons eu 3 baptêmes. Combien de personnes Dieu a-t-il appelées depuis que j'ai prononcé ce sermon pour la première fois? Il y a des personnes assises à côté de vous qui n'étaient pas là en 2019. J'ose affirmer que tous ceux d'entre nous qui étions là pouvons examiner notre condition spirituelle et notre caractère et dire que nous avons beaucoup évolué au cours des 5 dernières années. Cependant, si Dieu nous accorde plus de temps, peu importe qu'il s'agisse de secondes, de minutes, de jours, de mois ou d'années inconcevables, il l'a fait pour une raison. Nous ne souhaitons pas que ce monde continue. Comme je l'ai mentionné dans mon message Behind the Work, ce qui m'enthousiasme, ce n'est pas d'atteindre des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, mais des centaines de milliards. C'est ce que représente le dernier grand jour. Et aujourd'hui, Nous ne devrions pas être tristes ou déçus. Nous devrions être enthousiastes. Nous devrions être un peu mélancoliques. Bien sûr. Vos amis, votre famille, les personnes qui vous entourent, vous ne les reverrez peut-être pas avant un an dans le royaume. Mais alors que la fête touche à sa fin dans le dernier grand jour, je vais vous lancer un défi, car je suis désolé de vous appâter et de vous tromper ainsi alors qu'il ne reste plus de temps. Devinez quoi? Nous venons juste de commencer le travail. Ce que vous avez commencé il y a 8 jours était important. C'était du travail. Nous en avions besoin. Nous devions travailler dur. Mais ce que vous avez commencé il y a 8 jours n'était en réalité que le début. Et en réalité, c'était la partie facile, car nous pouvions nous concentrer pendant 8 jours. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous serez confronté à tous vos défis habituels, aux routines quotidiennes avec lesquelles vous devrez composer. Vous retournerez au travail. La vie vous submergera. Cependant, mes frères, nous devons continuer à travailler. Nous devons persévérer. Nous devons profiter de l'élan que ces jours ont créé en nous et l'utiliser pour nous propulser vers le royaume de Dieu. Alors, comment allons-nous y parvenir? Comment allons-nous mettre en pratique les leçons de la fête? Que va-t-on ramener chez nous? J'imagine que nous sommes tous différents. Chacun dans cette salle aura une façon différente de se remémorer la fête. Il y aura bien sûr des souvenirs communs, mais ce que vous retirerez de la fête des tabernacles sera une sainte chose différente. Si je commence à parler d'événements, vous en aurez immédiatement un qui vous viendra à l'esprit, ou une image d'un événement spécifique. Je sais que je ferai la même chose. Je dis événement, et je n'ai pas dansé depuis très longtemps. Et comme je voulais que ma petite fille de 7 ans danse, j'ai dû me lancer et le faire moi-même. Je laisserai Monsieur Taureau déterminer ce que j'ai prouvé. Mais je m'en souviendrai. Il y aura aussi pour vous des moments où vous vous souviendrez des choses qui se sont passées. Alors, comment pouvons-nous nous assurer de continuer à grandir? Comment pouvons-nous nous assurer de persévérer, de tenir bon, d'être capable d'accepter la vérité dont Dieu continue de nous bénir et de continuer à aller de l'avant? Comment pouvons-nous persévérer? Je vais donc le répéter. La fête est presque terminée. Presque. Il nous reste encore une soirée à passer ensemble. Cependant, le véritable travail continue. Comment pouvons-nous, vous et moi, mettre à profit tout ce travail que nous avons accompli et atteindre l'endroit où nous voulons être? Nous ne voulions pas atteindre le dernier grand jour. Nous voulons atteindre un endroit différent. Comment pouvons-nous donc mettre à profit tout le travail que nous avons accompli pendant la fête des tabernacles et atteindre l'endroit où nous voulons être? Et cet endroit, c'est le royaume de Dieu. Il y a certaines mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer d'y parvenir. Passons au Lévitique 23. Nous l'avons lu à maintes reprises, mais lisons-le une fois de plus. Je vais vous présenter un peu le contexte avant d'entrer dans le vif du sujet. Lévitique 23. Nous allons lire le verset 39. Le verset 39 du Lévitique 23 dit, « Le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les fruits du pays, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un sabbat, et le 8e jour sera un sabbat. Nous l'avons fait. C'était un commandement de Dieu auquel nous avons répondu, « Oui, Dieu, nous vous obéissons. » Et nous sommes venus à cet endroit, ainsi qu'à d'autres endroits dans le monde, et nous avons dit, « Oui, nous le ferons. » Nous nous rassemblerons et nous célébrerons les jours solennels à chaque extrémité. Nous sommes actuellement dans le dernier grand jour, le 8e jour. et nous avons eu un avantage considérable par rapport à tous les autres endroits du monde. Nous étions sur le campus du siège social de Dieu. Dans le message de la soirée d'ouverture, j'ai parlé de se concentrer sur les bénédictions, le plan de Dieu, ce que nous avons pu vivre. Et maintenant, après 8 jours passés à obéir à cet ordre, nous devons faire le bilan de ce que nous avons appris, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons traversé. Nous devons réfléchir aux joies que cet ordre nous a apportées, aux nouvelles amitiés, aux liens plus profonds, aux leçons apprises. Vous avez peut-être rencontré des épreuves et des difficultés. Nous avons même assisté à une guérison assez spectaculaire pendant la fête. Vous et moi avons appris tant de choses au cours de ces 8 jours, et vous ne pourrez pas assimiler toutes ces connaissances avant d'être rentré chez vous. Comme cela a été dit dans le message précédent, vous avez beaucoup de matériel d'études bibliques, mais pas seulement du matériel d'études bibliques provenant des sermons, vous avez aussi beaucoup de matériel de méditation sur lequel réfléchir. Ne perdez pas ces images. Je me souviens qu'un couple venait de se marier ici, au siège, et qu'ils se tenaient dans la file d'accueil. Nous les félicitions. Je leur ai dit, prenez beaucoup de photos mentales, car cette journée va passer très vite. Avant même de vous en rendre compte, vous serez dans une voiture, en route pour votre lune de miel. Alors, arrêtez-vous, et dites-vous sans cesse, c'est une photo mentale. Capturons-la. Eh bien, mes frères et sœurs, vous avez pris beaucoup de ces photos mentales, alors ne les perdez pas. Repensez-y, puis réfléchissez à ce que cela signifie pour votre compréhension du plan de Dieu, et à tout ce que cela signifie aujourd'hui, en ce dernier grand jour où le monde entier va découvrir et vivre, et avoir ces images mentales, si vous voulez, que vous avez pu apprécier pendant 8 jours. Passons au Deutéronome chapitre 16. Parce que nous avons obéi. Cela commence toujours par l'obéissance. Parce que nous avons obéi. Deutéronome chapitre 14. Et nous allons simplement relire un verset. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Je pense l'avoir lu lors de la soirée d'ouverture. Deutéronome 14, verset 26. Verset 26 du Deutéronome 14. Et tu dépenseras l'argent pour tout ce que ton âme désire. Tout ce que ton âme désire. Quelqu'un a dit pendant le déjeuner, j'aimerais vraiment savourer un peu de la graisse sur le côté de ce bœuf. Et j'ai répondu, vous devez obéir à Dieu. Pour les bœufs, ou pour les brebis, ou pour le vin, ou pour les boissons fortes, ou pour tout ce que votre âme désire. Et vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et votre maison. On pourrait facilement dire, c'est notre maison. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Chaque tranche d'âge a pu vivre une expérience qui lui était propre. Sans parler des événements qui ont réuni tout le monde dans la salle. Je n'ai jamais été sur un site où la participation à la journée familiale était aussi élevée. C'était ma mission. Vous avez tous contribué et vous avez permis que cela se réalise. Mais nous avons obéi à Dieu. Nous sommes venus à la fête. Nous avons pu vivre tout ce que notre âme désirait. Cela devrait donc générer quelque chose en nous. Et c'est le premier point. Tous ces éléments devraient générer une chose en nous. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'attarder sur celle-ci. La gratitude. La gratitude. C'est quelque chose qui manque souvent dans le monde. Les gens ne disent pas souvent « s'il vous plaît » et « merci ». Certaines personnes le font. Nous vivons dans une petite ville, on le voit plus souvent. Plus on se rapproche d'une grande ville, moins on le fait. Mais la gratitude nous aide à recentrer qui nous sommes, car elle nous fait apprécier non seulement les grandes choses de la vie, mais aussi les petites choses. les petits merci, les bénédictions que nous avons reçues. J'ai discuté avec plusieurs personnes qui m'ont parlé des petites bénédictions qu'elles ont reçues, comme le fait de retrouver leurs clés, où elles font cette. Elles font une petite prière pour que quelque chose d'autre leur vienne à l'esprit, elles demandent l'aide de Dieu, et leur prière est exaucée. Et tout le monde autour d'elles, à l'exception des personnes que je vois devant moi, dirait que ce n'est qu'une coïncidence. Non, nous comprenons que Dieu nous bénit avec de petites choses. Encore une fois, c'est le Dieu des deux univers, des neutrinos, des atomes et de toutes les particules subatomiques. C'est le Dieu qui fait les deux. Il se soucie des grandes et des petites choses. Et il est important que nous en fassions autant. Cependant, la gratitude n'est que la première étape. La gratitude nous aide à construire la foi, car nous sommes reconnaissants pour la foi qui nous construit. Oh, Dieu est présent dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Dieu, tu m'as béni, ce qui signifie que tu m'écoutes, ce qui signifie que j'ai un lien avec un être qui peut prendre l'univers tout entier, l'enrouler dans un rouleau, puis le dérouler à nouveau, et il sera complètement différent, tout en fonctionnant avec la même précision que l'univers actuel. C'est un être qui maîtrise les choses. Ainsi, lorsque nous ressentons ces choses dans nos vies, nous savons, d'accord, Dieu, je sais que tu as ce pouvoir, mais peux-tu te concentrer sur moi? Et lorsque vous recevez ces petites bénédictions, que des portes s'ouvrent, peu importe ce que c'est, appréciez-les, car cela renforce également votre foi. Vous êtes reconnaissant, et cela renforce votre foi. Mais cela ne suffit pas pour arriver à la fin de l'année prochaine. Voyez-vous, le temps a continué à s'écouler jusqu'à ce point. Ce n'est pas suffisant. La gratitude ne suffit pas. C'est un point de départ, car nous devons être reconnaissants. Nous devons montrer notre gratitude, mais la gratitude est étroitement liée à un autre élément, à savoir le contentement. Le contentement. La gratitude et le contentement vont de pair, car lorsque nous sommes reconnaissants et satisfaits, cela mène à autre chose. Pas le point suivant, mais ces deux éléments ensemble commencent à construire quelque chose en nous, et cela nous fait grandir, car vous avez la gratitude, le contentement, la foi. Souvenez-vous que cela se construit dans ce processus, et nous commençons à grandir, car nous atteignons un certain point où nous sommes heureux de l'endroit où Dieu nous a placés, car vous pensez, d'accord, Dieu, tu m'as placé là où tu voulais que je sois. Et lorsque nous acceptons que l'endroit où nous sommes est celui où nous devons être dans le corps du Christ, et dans divers aspects de notre vie, cela lui donne l'occasion de nous pousser, n'est-ce pas? Parfois. J'aimerais que la gratitude s'applique à moi personnellement, ou que le contentement s'applique à moi personnellement, car alors je pourrais me détendre, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne en tant que chrétien. Une fois que nous sommes satisfaits de notre situation, Dieu, alors, passe à l'étape suivante du processus qui consiste à nous pousser, à nous développer, à nous enseigner et à nous mettre à l'épreuve. Lorsque la fête a commencé, je vous ai rappelé à tous que nous n'étions pas ici en vacances. C'était un moment pour nous permettre de grandir spirituellement, de nous servir les uns les autres, encore une fois, de travailler. Et, franchement, je suis sûr que vous êtes tous un peu fatigués. Je suis un peu fatigué. Demain, je suis censé être au bureau. Mais j'y viendrai lorsque mon corps décidera de se réveiller de son sommeil sans réveil. Si vous faites partie du personnel, vous pouvez venir au bureau demain, à l'heure où votre corps vous réveillera, car vous êtes un peu fatigué, ce qui est normal. C'est ce que vous souhaitez. Si vous travaillez dur, vous êtes fatigué. Si vous faites de l'exercice et travaillez dur, Je suis coureur. Je l'ai probablement déjà dit à maintes reprises. Je ne l'ai pas fait depuis un certain temps avec la fête, mais il y a une sensation que l'on ressent lorsque l'on se dépasse, lorsque l'on pousse son corps à bout et votre corps ressent de la fatigue. Vous dormez bien, cela apporte divers bienfaits, mais c'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue, et ce que vous ressentez cet après-midi, j'ai dit que vous seriez un peu somnolent. Je sais que vous l'êtes. Vous avez le ventre plein. C'est une bonne fatigue. C'est donc le recul du lundi matin qui se produit dans votre tête. Vous devez vous contrôler. Avez-vous pleinement profité de la fête? Certains d'entre vous diront oui, d'autres diront non, mais vous savez que vous ne pouvez pas changer ce que vous n'avez pas fait et ce qui appartient au passé. Alors, lorsque vous rentrerez chez vous et que vous penserez, d'accord, on m'a dit que je devais travailler. Je savais que ce n'était pas des vacances. J'ai accompli beaucoup de choses, mais dans certains domaines, je ne me suis pas autant investi que je l'aurais dû. Très bien. Vous l'avez reconnu. Allez-y, faites-le lorsque vous rentrerez chez vous. Dieu nous a donné plus de temps, ce qui signifie que nous avons plus de temps pour changer ces choses, pour grandir et nous développer. Allez au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. J'apprécie les versets simples de la Bible qui ne sont pas complexes à comprendre, mais qui se lisent facilement. Chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Christ est simple. Il y a de la simplicité dans Christ, et les sujets simples, franchement, sont ceux qui nous amènent au point où nous sommes prêts à entrer dans le royaume. Comment nous y arrivons, le moment où le royaume viendra, tout cela dépasse mes compétences. Cela signifie donc que cela dépasse nos compétences à tous, à l'exception des apôtres. Mais les choses qui ne dépassent pas nos compétences sont les choses simples, celles qui nous préparent, qui préparent notre caractère pour le royaume. Philippiens chapitre 4, verset 11. Et c'est une partie importante de ce caractère. Verset 11 de Philippiens chapitre 4. Ce n'est pas que je parle par besoin, dit Paul ici, car j'ai appris à être satisfait dans toutes les situations. On ne peut pas avoir une vision plus large que de dire dans toutes les situations. Et pensez à ce que Paul a traversé, les naufrages, l'emprisonnement, les coups, la torture, et tout le reste. Donc, s'il a appliqué cela, ne veut-il pas dire? C'est Paul, il n'a pas menti, c'est dans la Bible, c'est vrai. Il a dit qu'il pouvait regarder toutes ces situations, et même si ces expériences n'étaient probablement pas faciles, il pouvait dire, vous savez quoi? Je suis satisfait. Dieu, si tu veux que je fasse cela, alors je devrais être satisfait, car tu l'as permis. Il était reconnaissant d'avoir été délivré à maintes reprises, il savait donc que Dieu ne le laisserait pas aller trop loin, comme le mentionne plus loin l'Épître aux Philippiens, que nous lirons dans un instant. Mais la fête nous a permis de nous concentrer sur le dessein de Dieu dans nos vies, de vivre des choses merveilleuses, mais d'être satisfaits. Nous avions la gratitude et la satisfaction, ces deux sentiments se rejoignant d'une manière très particulière. On ne peut pas être satisfait sans être reconnaissant. En effet, si l'on est reconnaissant pour rien, on ne prête pas attention et on n'apprécie pas les choses qui se produisent en dehors de notre capacité d'agir. Car nous ne sommes souvent pas reconnaissants pour ce que nous faisons. Si je construis une niche pour chien, je ne pense pas, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir construit cette niche. Non, la gratitude vient lorsque l'on reçoit quelque chose de l'extérieur, de Dieu, des autres. Nous avons donc besoin de cela pour nous concentrer et dire, d'accord, oui, merci. Mais ensuite, nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Ces deux sentiments vont de pair. Cependant, cela ne suffit pas. La gratitude et la satisfaction ne suffisent pas. Vous êtes toujours dans l'épître aux Philippiens. Revenez quelques versets en arrière, au verset 7. J'y ai fait allusion. Verset 7, Philippiens 4, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il y a certains versets dans la Bible, cela n'a pas de rapport avec ce que je dis, je fais juste une digression. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Réfléchissez à ce que cela signifie. Il existe une paix de Dieu, le sentiment de la paix de Dieu, que nous ne pouvons pas comprendre, qui dépasse toute intelligence. Donc, pour faire partie de la famille de Dieu, ce à quoi nous aspirons, il existe un niveau de paix que nous. Je pourrais dire que nous ressentons la paix. Et nous sommes sur le campus, isolés du monde, nous sommes ici ensemble. Je suis certain que nous avons tous ressenti, tout au long de la fête, un niveau de paix que nous ne connaissons pas habituellement. Cependant, il existe une paix de Dieu, lorsque nous avons le caractère de Dieu, nous devenons Dieu, que nous ne pouvons actuellement pas comprendre. Mais continuons, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, cela aboutit à une conclusion dans Philippiens. Enfin, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est là que notre esprit devrait être. Cela nous amène à la satisfaction. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'être approuvé, s'il y a quelque vertu, s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Tout au long de la fête des tabernacles, vous avez noué de nouvelles amitiés, vous êtes probablement sorti de votre zone de confort et vous vous êtes ouvert aux autres. Vous vous êtes rendu service les uns aux autres, vous avez connu la joie. Frères et sœurs, pensez à ces choses, car elles s'inscrivent dans le cadre de ce que dit Philippiens 4. Il y a des choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables, de bonne réputation, qui sont vertueuses. Réfléchissez à ces choses, car en le faisant, vous développerez non seulement votre gratitude, mais aussi votre contentement, car on ne peut remplir une coupe qu'à une certaine hauteur avant qu'elle ne commence à déborder. Si nous sommes satisfaits de ce que nous avons, nous sommes cette coupe pleine. On ne peut rien y ajouter de plus. Mais pourtant, d'une certaine manière, lorsque nous sommes satisfaits, Dieu dit, « Je peux élever un peu plus les bords de la coupe. Je peux y verser un peu plus, j'ai la capacité d'y ajouter davantage, car je suis Dieu, mais cela exige que nous agissions en conséquence. Nous devons accomplir toutes ces choses. Si vous faites ces choses, verset 9, que vous avez apprises, reçues, entendues et vues en moi, le Dieu de paix sera avec vous. C'est cela, le contentement, lorsque vous ressentez la paix. Le véritable contentement nous aide à nous concentrer sur ce qui est important, car nous ne nous efforçons pas de rechercher la prochaine chose. Nous ne cherchons pas à rivaliser avec les autres, si vous voulez. Mais nous ne pouvons pas non plus nous reposer sur nos lauriers. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Le contentement est une drôle d'épée à double tranchant, ou une pièce à deux faces. Nous devons nous contenter de ce que nous avons, mais nous ne devons pas nous contenter de ce que nous sommes. Nous devons être patients avec nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous sommes. Cela signifie que nous devons toujours grandir, nous développer, construire et travailler. Cependant, même si c'est de la gratitude et du contentement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus. J'ai déjà donné cette formule. Encore une fois, j'ai donné ce sermon, ou un sermon similaire, à de nombreuses reprises. Si vous aimez les mathématiques, qui dans cette salle aime les mathématiques? Vous êtes quelques-uns. Je savais que ce serait la réponse. La plupart des gens. J'ai déjà raconté cette histoire, je vais la raconter à nouveau. Mais je vis dans un foyer où Dieu a parfaitement équilibré ma femme et moi. J'aime les chiffres et les mathématiques, les sciences. Et elle aime la chimie. Nous avons donc un petit point commun dans le domaine des sciences. Elle apprécie également les langues et les mots. Quand j'entends. Pour moi, les noms sont difficiles. Visuellement, je suis très doué. Je me souviendrai où je vous ai vu, à quelle fête je vous ai vu, quel était votre contexte. Mais les badges nominatifs sont une aide précieuse. Je ne le cache même plus, car j'ai admis devant tout le monde que je n'étais pas doué pour les noms, donc je ne peux pas le cacher. Alors qu'elle peut se souvenir du nom obscur d'une personne qu'elle a rencontrée il y a des années, et cela reste gravé dans sa mémoire. Elle est douée avec les mots et les connaissances. Cependant, avant qu'elle ne prenne la grosse tête, elle entend les chiffres comme de grands chiffres, de petits chiffres. Et je lui dis, est-ce que tu... N'était-ce pas incroyable? C'était 7 432 003 et 4 mains, les gens qui... Dadada. Elle répond, oh, oui, c'était un grand nombre. Donc, oui, grand nombre, petit nombre. Je vais faire un petit calcul. Cela n'avait absolument rien à voir avec mon message. Mais si vous prenez la gratitude et que vous l'ajoutez au contentement, mettez-la entre parenthèses. Vous obtenez alors un BEDMA, comme on dit au Canada, ou un EDMA. Je ne sais pas comment on dit en Amérique. Mais les parenthèses, les exposants, la division, la multiplication, l'addition, la soustraction, l'ordre des opérations. Cela fait quelques années. Nous l'appelions BEDMA. Mais vous? Je pense que vous appelez cela des parenthèses en Amérique. Donc, PEDMA contre BEDMA. Le vôtre ressemble davantage à un insecte. Le nôtre ressemble à dormir. Mais vous faites d'abord ce qui est entre parenthèses, puis vous le multipliez par quelque chose, et cela vous mènera au royaume de Dieu. Donc, si nous avons le contentement, nous l'ajoutons à la gratitude, puis nous le multiplions par cette autre chose, vous arriverez au royaume de Dieu, c'est garanti. Cette autre chose est un mot simple. Vous l'avez entendu de nombreuses fois. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Car le temps a la capacité de continuer à s'écouler. Nous pouvons espérer, attendre, voir tout ce que nous voyons et croire fermement que le temps ne peut pas, mais parfois, il le fait. En fin de compte, Christ va y mettre un terme, et nous allons nous retrouver à un moment où nous devrons nous présenter devant lui. Mais il laisse cela assez flou, n'est-ce pas? C'est un endroit amusant où M. Pack nous a laissé lors de la fête. Il ne vous a pas donné de jour. Il n'y a pas de date devant vous pour le moment. Je suis sûr que nous en apprendrons davantage. Mais Christ mettra fin à cela, mais jusqu'à ce que cela arrive, nous devons continuer à persévérer. Et la persévérance est facile pendant la fête. Ce n'est pas vraiment de la persévérance. Nous avons entendu tout à l'heure que ce ne serait pas amusant si nous pouvions faire une fête de 14 jours. Certains d'entre nous pourraient avoir l'impression d'être morts à ce moment-là, mais nos vêtements ne nous iraient plus, c'est certain. Cependant, il n'est pas difficile de persévérer pendant la fête, car vous êtes entouré du peuple de Dieu. C'est un cadre semblable à celui du royaume. Vous pouvez vous promener n'importe où sur ce campus, Et la seule personne que vous verrez est un autre être humain qui a l'esprit de Dieu en lui ou qui travaille avec lui. Cela n'est possible nulle part ailleurs sur Terre, même sur d'autres sites de la fête. C'est unique ici. Il n'est pas difficile de persévérer ici. C'est simple. Mais le défi consiste à maintenir cet élan, car vous allez rentrer chez vous. Vous allez reprendre votre routine quotidienne. Vous allez retourner au travail. Vous allez retourner à l'école. Vous allez retrouver ce collègue qui ne semble jamais vous laisser tranquille. Il ne cesse de vous harceler. Il est difficile de travailler avec lui, ou la personne à l'école, ou telle épreuve, tel ou tel test, tel ou tel stress que vous traversez. Les distractions de notre vie reviendront en force. C'est dans la nature des choses. L'endurance signifie prendre tout le travail que vous avez accompli pendant la fête et continuer à l'utiliser. Continuer à l'utiliser, à en tirer parti, à vous en souvenir, à méditer dessus. Pensez, d'accord, je me souviens quand j'étais à la fête. Parce que vous savez ce que vous allez faire, vous allez y retourner, et nous devrions en faire autant. Nous devrions tous sortir du sermon, nous devrions tous voir le verre à moitié plein. Mais cela ne devrait pas être aussi simple. Si vous avez un verre, il devrait toujours être plein. Ainsi, selon les épreuves que vous traversez dans la vie, ou ce que vous vivez pendant la fête, votre verre peut être plein à 98%. Il peut sembler plein à 100%. Il y a probablement eu des moments pendant la fête où votre verre vous a semblé plein à 100%. Il n'est pas difficile de supporter cela lorsque notre verre est plein à ce point, ou plein à 75% ou 80%. Il est facile d'être positif et enthousiaste, de sourire. Cependant, lorsque vous quitterez la fête, cela ne restera pas ainsi. Cela dit, lorsque le niveau descendra à 60%, continuerez-vous à sourire? Quand il sera à 50%, mon verre sera à moitié plein, continuerez-vous à sourire? Quand il sera à 40%, penserez-vous, eh bien, il est à 40%, cela pourrait être pire. Et quand il sera à 10%, parce que vous pouvez soit considérer que mon verre est à 90% vide, soit il reste encore 10% dedans. Je suis plein à 10%. Et plus nous méditons sur ce que nous avons vécu au cours des 8 derniers jours, plus nous gardons ces images dans notre esprit, la joie, la réjouissance, les expériences, la fraternité, les amitiés, les liens. Plus nous les gardons à l'esprit, plus nous empêchons l'image de s'estomper. Car lorsque nous le faisons, vous souriez toujours quand il est plein à 10%. Car vous savez qu'il y a d'autres personnes qui disent, « Oh, eh bien, nous suivons le mouvement. » Je n'arrive pas à croire combien de personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles n'avaient pas oublié cela. Et cela arrivera. Les choses seront remplies à 10%. Passons au chapitre 24 de Matthieu, Matthieu 24. Examinons quelques versets sur la persévérance avant de voir un peu ce que nous devons endurer, puis comment vraiment finir en beauté jusqu'au royaume de Dieu. Donc, Matthieu 24, verset 13. Le verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Nous ne pouvons pas faire 5 minutes avant la fin, ni un jour, ni une semaine, ni un mois, et nous n'avons pas non plus à persévérer après la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là recevra le salut. Celui-là naîtra dans la famille de Dieu. Ce Dieu qui est en dehors de l'espace et du temps, qui a une paix qui dépasse l'entendement, qui a créé l'univers, nous pouvons devenir cela si nous persévérons jusqu'à la fin. C'est la chose la plus difficile qu'un chrétien ait à faire, car nous subirons des épreuves, le temps passera, des événements se produiront, nous souhaiterons nous marier, ou l'herbe sera plus verte ailleurs, ou quelles que soient les circonstances. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons simplement continuer, car nous tomberons. Je tombe. Nous commettons des erreurs. Nous en commettons tous. Nous sommes humains. Nous péchons tous. Ceux qui pensent le contraire se trompent. Mais Dieu dit, non, la persévérance, c'est se relever. Je me souviens, je vais vous raconter une histoire, je l'utilise souvent, et nous ne l'avons pas utilisée depuis un certain temps, mais mon fils lisait une série de petits livres sur les voitures et autres, et il est très intéressé par la mécanique, et plusieurs d'entre vous lui ont offert de petits véhicules mécaniques qui lui serviront pendant un certain temps, mais il a toujours aimé les véhicules. Je me souviens de la première fois où il était. Je crois que c'était sur son tricycle à l'époque, et il est tombé, comme tous les petits garçons, c'est la vie, toutes les petites filles aussi. Tout le monde tombe dans la vie. Je me souviens lui avoir dit, « D'accord, mon ami, Ilson, remonte sur ton vélo. Remonte sur ton vélo. C'est ce que tu dois faire. » Lorsque nous tombons, mes frères, nous devons nous relever et remonter sur nos roues. Remonter sur le tricycle, se relever, continuer à pédaler. Lorsque nous tombons, lorsque nous courons la course et que nous nous écorchons les genoux, nous devons nous relever, nous épousseter et continuer à courir. C'est cela, l'endurance, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Car souvenez-vous, ce qui nous permet d'avancer et d'atteindre le royaume, c'est l'endurance. Les deux autres l'aident et la renforcent. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Nous commencerons au verset 13 d'Éphésiens 5. Chapitre 5. Éphésiens 5. Et le verset 13 dit, « Mais toutes les choses qui sont réprouvées sont manifestées par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Dieu montre les choses par la lumière. C'est pourquoi il a dit, « Réveillez-vous, vous qui dormez, levez-vous de la terre, et Christ vous éclairera. Veillez donc à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et comment marcher comme des sages? En rachetant le temps. Quel que soit le temps qui nous est donné, minute, jour, mois ou année, nous devons en tirer profit, ce qui signifie que pour racheter le temps, nous devons traiter. Imaginez que Dieu nous donne un an. Nous ne pouvons pas l'imaginer, mais même si nous le savions, si nous apprenions que M. Pack nous donnerait un sermon demain, ou ce qu'il dirait, la seconde, ou quel que soit le moment du prochain message, et qu'il disait, ce sera dans un an, mes frères. Nous ne pouvons pas agir comme si c'était dans un an. Nous devons agir comme si c'était dans 5 minutes. Nous devons profiter de chaque minute que Dieu nous accorde, car cela permet à davantage de personnes d'adopter ce mode de vie. Cela nous permet de grandir. Cela nous permet d'accomplir l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés à cette époque. Oh, frères et sœurs, suis-je enthousiaste à l'idée d'avoir un peu de temps? Au fait que nous avons des baptêmes partout dans le monde, que nous avons invité des personnes à l'église pendant la fête. Les ministres n'ont pas cessé. Lorsque les demandes de renseignements sur l'église sont arrivées, ils ont passé des appels téléphoniques et nous avons invité des personnes. Ce sont des personnes qui pourraient faire partie des 144 000, mais nous devons profiter de chaque minute que Dieu nous accorde. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais, le monde qui nous entoure. C'est pourquoi, ne soyez pas imprudents, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, que vous avez apprise de plus en plus au cours des 8 derniers jours. Savoir comment Dieu influence nos vies, c'est connaître sa volonté, Savoir ce qu'il veut. Ce qu'il ne veut pas que nous fassions, c'est la volonté de Dieu. Allez à Hébreux 11. Et nous continuons à nous concentrer sur l'endurance d'une manière générale. Nous n'avons pas à endurer comme les autres générations l'ont fait. Nous pouvons avoir des douleurs et des maux. Je sais que certains d'entre vous ont des problèmes de santé avec lesquels ils doivent lutter. C'est difficile. Et vous souhaitez désespérément que le royaume soit ici, parce que vous le ressentez, ou parce que vous avez des membres de votre famille qui sont malades. Vous souhaitez désespérément que le royaume soit ici. Verset 32 d'Hébreux 11. Et c'est bien de souhaiter désespérément le royaume. Nous devrions tous le souhaiter désespérément. Si vous rencontrez des difficultés ou des épreuves dans votre vie, vous le désirerez désespérément plus que quelqu'un qui a une vie facile. Vous avez donc un avantage grâce à ce désir, mais ce désir peut être une espérance différée si nous dépassons le point de non-retour. Profitez donc de cet avantage et utilisez-le. Partagez votre désir avec ceux qui vous entourent, car vous avez cet avantage. Et souvent, vous avez aussi plus d'années à vivre. Vous comprenez donc mieux quelle est la volonté de Dieu. Le verset 32 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dit, « Et que dirai-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des autres prophètes, qui, par la foi, ont soumis des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la bouche des lions. » Passons au verset 36. D'autres ont subi des épreuves cruelles, des moqueries, des flagellations, des chaînes et des prisons. Les chrétiens ont dû endurer de nombreuses épreuves au fil des générations. Ils ont été lapidés. Ils ont été sciés, tentés, tués par l'épée. Ils ont erré vêtus de peau de mouton et de chèvre, démunis, affligés, tourmentés. Peu importe la difficulté de nos épreuves, sont-elles comparables à celles-ci? Dans de nombreux cas, il s'agit de l'Ancien Testament. Dans tous ces cas, il s'agit de prophètes de l'Ancien Testament. Ils étaient pour la plupart seuls. Y avait-il seulement une salle remplie de personnes qui pouvaient les aider, qui étaient comme eux? Non, non, ils étaient pour la plupart seuls. Continuons, verset 38. Le monde n'était pas digne d'eux. Ils erraient dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les grottes de la terre. Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont pas reçu la promesse. Ils sont morts. Dieu, ayant prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Eux sans nous, ou nous sans eux. Il y aura donc un moment où vous et moi parviendrons à la perfection. Ils sont décédés. Ils ont vécu toute leur vie, souvent difficile, et sont décédés il y a des milliers d'années. Nous savons que nous sommes à un moment où ce n'est pas le cas. Si le temps continue encore un peu, certains ici, dans le monde entier, pourraient-ils terminer leur parcours? Bien sûr. Ils sont scellés et prêts à partir. Mais c'est à nous, qui sommes de ce côté-ci de la barrière, de continuer à avancer, quelle que soit notre situation. Nous n'avons pas été jetés dans la gueule des lions, ni fouettés. Inspirons-nous de leur exemple lorsque la situation semble difficile, lorsque les épreuves sont rudes. Cela n'atténue en rien la difficulté d'une épreuve. Mais lorsque nous la replaçons dans le contexte de ce que d'autres ont traversé, il est beaucoup plus facile de regarder ce vers et de se dire, vous savez quoi? 3,21%, un petit pourcentage, de ce vers est plein. Et cela me convient, Dieu. J'en suis satisfait. Je sais que vous ne laisserez pas mon vers, pour pousser l'analogie à l'extrême, vous ne laisserez pas ce vers se vider. mais vous pouvez le laisser se vider presque entièrement. Et puis, on nous donne une chance, lors de la fête, des jours des pains sans levain ou de la Pâque, de nous ressourcer et de nous remplir à nouveau. Ils ont attendu jusqu'à la mort, mes frères. Ils ont persévéré jusqu'à la mort. Dites-vous, lorsque vous quitterez la fête, peu importe ce qui se passera cette année, je persévérerai jusqu'à la prochaine fête. Je ne dis même pas persévérer jusqu'à la mort. Dites-vous, je persévérerai jusqu'à la prochaine fête. Si vous vous sentez ailé, dites jusqu'à la mort. Car c'est finalement ce que nous devons faire. Nous devons persévérer jusqu'à la mort. Ils ont cru aux promesses que Dieu leur a faites et qu'ils ne verront que plus tard. Et pour ceux qui partent les premiers, nous avons même la chance, en petit nombre, de vivre certaines choses avant qu'ils ne les vivent, même s'ils ont traversé les épreuves qu'ils ont traversées. Nous sommes un groupe spécial. Nous sommes un groupe unique d'êtres humains. Considérez-vous comme faisant partie de ce groupe. Ils ont la chance de vivre quelque chose. Alors, dites-vous, gardez cela à l'esprit, écrivez-le dans votre carnet de prière, je persévérerai jusqu'à la prochaine fête des tabernacles. Il est toujours préférable de viser plus haut que ce que nous pouvons atteindre. Car si Dieu nous rappelle à lui avant cela, comme nous nous y attendons, ce sera un bonus. Allez au psaume 9, le 9e psaume. Nous devons persévérer parce que nous servons un Dieu qui persévère. Psaume 9. Commencez au verset 5 du psaume 9. Le verset 5 dit, « Tu as réprimandé les païens, tu as détruit les méchants. Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. Ô ennemis, les destructions ont pris fin pour toujours, tu as détruit des villes, et leur mémoire a péri avec elles. Mais le Seigneur subsistera à jamais. Il a préparé son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice et rendra ses jugements au peuple avec droiture. Mais le Seigneur subsistera à jamais. » Vous pensez peut-être, bien sûr, c'est facile. C'est Dieu. Mais imaginez, au cours de votre vie, vos expériences, vous pouvez tous raconter des choses qui se sont produites. Plus vous êtes âgé, plus vous avez d'histoires à raconter sur des choses que vous auriez souhaité ne pas vivre, ou qui sont arrivées à d'autres personnes autour de vous. Mais concentrons-nous sur les autres personnes autour de vous. Vous avez vu des gens vivre des choses qui vous ont brisé le cœur, surtout quand ils vous sont proches. Imaginez si vous aviez dû faire cela pendant 6000 ans. C'est ce que Dieu a dû faire, Christ. Et puis, il a dû voir son Fils descendre sur terre et être traité de la même manière que lui par les personnes qu'il avait créées, sans riposter. Il peut donc sembler facile de supporter cela en tant que Dieu, parce que vous êtes Dieu, mais vous devez voir vos petits-enfants commettre sans cesse des erreurs qui rendent leur vie plus difficile. Nous sommes toujours dans les psaumes, passons donc au psaume 104. Psaume 104. Lisons un autre. C'est ce qui nous facilite un peu les choses. Psaume 104, verset 31. Le verset 31 dit, « La gloire de l'Éternel subsiste à toujours, et l'Éternel se réjouit de ses œuvres. » La gloire de l'Éternel subsiste à toujours. Vous pourriez lire d'autres versets qui parlent de la miséricorde de Dieu qui subsiste à toujours. Car toutes les caractéristiques de Dieu dureront éternellement lorsque Dieu dit qu'il le fera. C'est difficile. Si vous deviez observer. Si vous avez des enfants, vous comprenez que c'est différent. Avant d'avoir un enfant, j'avais des personnes que j'aimais, auxquelles je tenais et dont j'étais proche. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant, cela change. Vous ne pouvez pas l'expliquer tant que vous ne l'avez pas vécu. Vous pouvez l'apprécier si vous avez des frères et sœurs. Cela peut être des parents proches, ou très proches, mais c'est différent quand il s'agit de votre progéniture. C'est donc ce à quoi Dieu a été confronté. Il a eu des centaines de milliards de descendants, si vous voulez, qui ont commis des erreurs, qui ont fait des choses. C'est difficile de voir des enfants faire de mauvaises choses en grandissant, prendre de mauvaises décisions. J'ai un frère qui a pris des décisions intéressantes dans la vie. C'est mon frère, j'essaie de l'aider et de le soutenir, et il a eu une vie difficile. Mais même si nous sommes assez proches, son influence sur moi est bien moindre que celle qu'il a sur ma mère. C'est comme cela que cela vous affecterait avec vos enfants. Mais, encore une fois, Dieu fait cela depuis 6000 ans. Imaginez qu'il inonde le monde, sachant que cela tuerait ses enfants, mais sachant aussi qu'il pourrait finalement les ramener à la vie. Il y a là un certain réconfort. Passons maintenant à Matthieu. Passons un moment sur le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, et nous commencerons au verset 16 de Matthieu 10. Rien n'a changé. Nous ne sommes pas passés au Nouveau Testament, et le but des chrétiens, des prophètes ou de ceux qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament n'a pas soudainement changé. Non, la norme est la même depuis 6000 ans. Matthieu chapitre 10, verset 6, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, mais simples comme les colombes. Passons au verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. C'est juste devant nous. Verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. J'ose dire que nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas? Il y a peut-être des gens qui vous haïssent à cause de vos croyances. Il y en a probablement. Je sais qu'il y a des gens qui me haïssent à cause de ce que j'enseigne et de ce que je crois. Mais, comme le verset le dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas parce que les circonstances changent que le dessein de Dieu ou ce qu'il attend de nous a changé. Nous devons surmonter des épreuves difficiles. Nous continuons donc ici. Il y a autre chose que nous devrons endurer. D'une manière plus générale, la Bible est pleine d'endurance. Mais mes frères, parce que c'est ce qui brise l'endurance plus que toute autre chose, vous et moi devons endurer les revers et les déceptions. Parce qu'il y aura les deux. Encore une fois, vous êtes à la fête, le verre est plein. Il n'est pas difficile de persévérer pendant la fête. C'est seulement lorsque le verre commence à se vider que nous devons garder une attitude positive, conserver la bonne approche, être capable de dire « Non, je vais continuer ». Car même pendant la fête, tout ne s'est pas déroulé parfaitement, n'est-ce pas? Vous avez vécu telle ou telle situation. J'étais plus enthousiaste à l'idée de faire les visites guidées qu'à toute autre chose, probablement à la fête, mais sans exception. Probablement, cela se remarquait, car je n'arrêtais pas d'en parler. Et ceux d'entre vous qui y sont allés savent à quel point je me suis amusé. Donc, le premier jour de la visite, je suis prêt à faire monter tout le monde dans les véhicules et à tout organiser. Et aucun des véhicules électriques ne fonctionnait. Alors, est-ce que cela vous a semblé être une épreuve à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'ai dû accepter la situation et me dire, bon, tant pis, il faut faire avec, et trouver une bonne solution. Nous avons donc rassemblé tous les ouvriers et tous les véhicules de travail dont nous disposions, d'ici à Cleveland, et nous nous sommes assurés que tout le monde avait un véhicule. Le lendemain, nous avons fait la visite avec des véhicules électriques complètement chargés et en état de marche. Vous savez ce qui est fascinant? Nous ne savons pas encore vraiment quel est le problème, mais pour moi, C'est inspirant. Le lendemain, nous avions les véhicules électriques et nous les avons remplis. Tout le monde était à bord. Je me sentais comme un guide touristique, car je conduisais tout en parlant au micro. J'avais une personne sympathique derrière moi qui le tenait, au point que sa main était fatiguée et engourdie, mais c'était un excellent travail d'équipe. C'était formidable à voir. Nous avons donc roulé, roulé. Nous avons fait le tour du campus. Cela nous a pris environ une heure. Puis, lorsque nous sommes revenus, nous avons déposé tout le monde et sommes allés ramener le véhicule à la maison. Ma femme a conduit le véhicule. Elle est une bonne conductrice. Donc, ce n'est pas un témoignage de ses talents de conductrice. Mais elle a conduit l'un de ces petits véhicules électriques bleus, que nous appelons les Gymcats, jusqu'à la maison. Je l'avais emprunté à Monsieur Denny. C'est son chariot. Ce fut une expérience intéressante. Je l'ai heurté avec une voiture. Je n'ai pas essayé de cacher ce qui s'était passé, je lui ai tout de suite dit, mais peut-être que c'était Dieu qui nous disait, « Non, nous allons nous en débarrasser, alors ne vous inquiétez pas. » Il a donc fait toute la visite d'une heure. Et puis, comme elle était seule, sans personne dans le véhicule, ni charge, elle a roulé sur la route, rentrant simplement chez elle, et une odeur de brûlé s'est mise à se dégager. Il y a deux possibilités. Cela pouvait venir du frein à main, mais cela ne fonctionne pas vraiment avec le frein à main. Ce n'était donc probablement pas cela. Ou alors, c'était simplement le moteur électrique qui tombait en panne. Elle a roulé pendant une heure sans problème, sans odeur, avec des passagers, mais ensuite, une odeur de brûlé s'est répandue, comme si quelque chose avait brûlé dans le système électrique. Je suis donc retourné au magasin et j'ai dit, « Monsieur, vous pourrez vous en occuper à votre retour. » Cependant, Dieu nous a bénis et nous a permis de vivre cette expérience. Et puis, je repense à tout cela et je me dis, si cela avait fonctionné parfaitement la première fois, aurais-je autant apprécié la bénédiction qu'il m'a accordée la deuxième fois? Ainsi, lorsque vous rencontrez un revers, ce revers est peut-être Dieu qui vous dit, « Non, je vais vous abaisser un peu plus, car je vais bientôt vous bénir. » N'oubliez pas le moment où vous avez été abaissé, car la bénédiction, la prière exaucée, là où je vous délivre, peut vous élever encore plus haut, et même plus haut encore si vous vous souvenez du moment où vous avez été abaissé. Donc, dans mon esprit, je me regarde et je me dis, j'étais mis à l'épreuve. Dieu m'a mis à l'épreuve. Cependant, quelle serait mon attitude lorsque ces véhicules s'arrêteraient, à part un petit arg, stupide véhicules électriques? Est-ce que je dirais, non, quelle est la solution? Nous allons faire avec. Nous allons réparer cela. Nous allons résoudre le problème. Et puis, le lendemain, lorsque nous l'avons refait, Dieu a dit, bien fait, vous avez fait ce que vous deviez faire. Voici ce qui aurait pu se produire au milieu de votre voyage si j'avais laissé ces véhicules chargés, car ils auraient pu tomber en panne, car nous avons roulé plus longtemps. Nous avons roulé plus longtemps que ce qu'il fallait pour faire le voyage et rentrer chez nous. Dieu va trouver des bénédictions dans votre vie. Vous allez rencontrer des revers, mais les revers ne sont que les précurseurs d'une bénédiction. C'est ce qu'ils sont. Car souvenez-vous, Dieu ne vous demandera pas plus que ce que vous pouvez supporter. Quand il le dit dans sa parole, c'est une promesse, mes frères. C'est une promesse faite à vous et à moi, il n'ira pas au-delà. Vous aurez parfois l'impression que c'est le cas. Oh, ne vous méprenez pas. Parfois, vous vous dites, Dieu, je ne peux pas aller plus loin. C'est à ce moment-là que nous devons faire un acte de foi et penser, d'accord, il a dit qu'il n'irait pas trop loin. Il pense que je peux aller plus loin. S'il te plaît, mets fin à cela, car je ne suis pas sûr de pouvoir continuer, mais il laisse faire. Et lorsque vous traversez cela, lorsque vous et moi endurons ces épreuves et ces revers, et qu'il ouvre la porte, il nous délivre, il nous bénit en nous faisant passer de là-bas à ici, c'est un moment de réjouissance, et il nous fortifie d'une manière que nous ne pourrions même pas imaginer si c'était facile. On ne construit pas la foi quand tout est facile. On peut se sentir bien, et la facilité est agréable, mais elle ne renforce pas nos muscles spirituels comme le fait de toucher le fond et d'être délivré par Dieu. Nous sommes mis à l'épreuve et il nous délivre. Parce que vous et moi devons endurer des revers et des déceptions. Revenons à Abdias. Le livre d'Abdia. Je pourrais vous indiquer où il se trouve, mais il serait plus intéressant de vous laisser le chercher. Il se trouve après Amos, si cela peut vous aider. Abdias, chapitre 1, verset 1, Abdias 1, 1. Donc, avant Jonas, après Amos, Abdias 1, 1. Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet des dons. Nous avons entendu une rumeur venant du Seigneur, et un ambassadeur est envoyé parmi les païens. Levez-vous et levons-nous contre elle pour la combattre. Voici, je t'ai rendu petit parmi les païens. Tu es grandement méprisé. Ainsi, Dieu a donné une mauvaise image d'Israël parmi les nations. Pourquoi? Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Toi qui habites dans les crevasses des rochers, dont la demeure est élevée, tu as dit dans ton cœur, qui me fera descendre à terre? Les revers font partie du cheminement chrétien, n'est-ce pas? C'est ce que nous devons faire. Verset 4. Même si tu t'élèves comme un aigle, même si tu places ton nid parmi les étoiles, je te ferai descendre, dit le Seigneur. Dieu dit qu'il va nous abaisser. Dieu peut nous humilier. Il ne peut pas nous rendre humbles. C'est à nous de choisir de le faire. Mais il peut nous humilier. Ainsi, si nous prenons trop d'importance, nous commençons à penser, « Je suis arrivé au sommet, je suis l'homme, je suis la femme, je suis ceci, cela ou autre chose. » Dieu souhaite que vous fassiez partie de sa famille. Il fera donc tout ce qu'il peut pour attirer votre attention. Et parfois, cela implique de nous humilier. Parfois, cela implique de vous abaisser, ou de m'abaisser. Mais même si nous ne sommes pas remplis d'orgueil dans notre cœur, comme l'était Israël ici, il permettra que des choses se produisent. Il continuera à nous mettre à l'épreuve. Il continuera à nous tester. Il continuera à nous faire traverser des épreuves. Mais regardons le Nouveau Testament, Matthieu 23, car nous pouvons voir la même chose, mais avec une solution cette fois-ci. Matthieu 23. J'ai été sévère avec vous concernant Abdias. Celui-ci est plus facile à trouver. Matthieu 23. Et nous allons lire le verset 8, Matthieu 23, 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, Christ. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il y a beaucoup de personnes remarquables dans cette salle en ce moment. Il y a eu beaucoup de services rendus lors de cette fête. Je ne fais que lire la Bible, donc, vous avez rendu service. Dieu considère cela comme remarquable. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Donc, si les gens essaient de se mettre en avant, s'ils veulent être au centre de l'attention, S'ils servent pour être vus, ce n'est pas du service. Mais si les gens agissent pour être vus, Dieu dit. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Dieu connaît notre cœur. Il voit à travers lui. Il faut servir avec sincérité. Continuons. Sera abaissé. Et celui qui s'humiliera. Nous devons nous humilier. Nous seuls pouvons le faire. Dieu peut nous abaisser. Celui qui s'humilie sera exalté. Vous pouvez accomplir des choses que vous ne pensiez pas pouvoir réaliser. J'ai observé cela à maintes reprises dans la vie de Dieu, au siège social, à l'église et dans le ministère. Les gens peuvent accomplir bien plus que ce qu'ils pensent pouvoir faire. Le problème, ce sont ceux qui pensent pouvoir accomplir bien plus avant que Dieu n'ait déterminé leur place dans le corps. Mais ceux qui sont humbles. Oh, j'ai des anecdotes qui pourraient le mettre dans l'embarras, mais je ne les raconterai pas car il n'est pas présent. S'il était dans la salle, je raconterais des anecdotes sur cet homme, mais il ne souhaitait pas devenir ministre. Je me souviens de certaines choses. Il aimait servir, il avait une attitude humble, c'est un excellent ministre aujourd'hui, mais il ne souhaitait pas le devenir, alors nous l'avons amené à le faire. D'abord, nous l'avons nommé diacre, nous avons commencé à lui confier des tâches de pasteur, sans qu'il s'en rende compte, puis à un moment donné, nous lui avons dit, « Devinez quoi ? Vous avez agi en tant que pasteur. Il ne nous reste plus qu'à vous imposer les mains. » Et il a compris ce qui s'était passé après que nous lui ayons dit, et il a répondu, « Vous avez raison, j'avais tort. » Mais il était humble. Il n'est pas venu nous dire, « Regardez-moi. Je pourrais être pasteur. Je l'ai dit moi-même, je suis l'informaticien. C'est ce que je pensais pouvoir faire dans le cadre de mon travail. Pendant des années, j'ai pensé que c'était ce que je pouvais faire, et mes compétences en informatique signifiaient que je ne me tiendrais jamais là où je me tiens aujourd'hui. Cela me convenait. J'aimais ce que je faisais. Je pouvais participer à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a dit, « Bonne attitude, je vais donc vous utiliser davantage. » Et puis, lorsqu'il décide de vous utiliser, vous ou moi ou qui que nous soyons, lorsqu'une occasion de servir se présente, nous devons prendre une décision, n'est-ce pas? Vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Et les occasions manquées peuvent se représenter ou non. Donc, si vous êtes humble, Dieu peut vous exalter. S'il vous donne l'occasion de servir d'une manière plus importante, peu importe ce que c'est, cela ne doit pas nécessairement être une fonction au service de Dieu. Cela peut être un hôte. Cela peut être un pilier dans une congrégation. Cela peut être l'organisation d'un événement que votre pasteur vous demande de faire. Vous pouvez être exalté, mais vous devez accepter cette exaltation. Jean 15. Jean chapitre 15. Lisez quelques versets ici. Verset 1 de Jean 15. Le verset 1 dit, « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Nous avons les arbres fruitiers que vous avez vus sur le campus à l'ouest. Quand ils ont de petits bourgeons qui sont des bourgeons fructifères, ils dépendent de l'arbre. Vos pêches ou vos pommes, vous les coupez ou vous les laissez, les nouvelles poussent et les anciennes poussent. Si vous savez comment faire cela, vous pouvez regarder et savoir si cette branche va porter du fruit. Et si ce n'est pas le cas, elle est coupée. Elle est taillée. Continuons. Et tout sarment qui porte du fruit, donc qui est productif, il l'émonde. Il le taille. C'est une chose extraordinaire de la création de Dieu. Si je peux revenir au péché, car c'est celui qui me vient à l'esprit, ou du moins celui que je connais le mieux. Si vous taillez un péché, Vous ne taillez pas ce qui ne pousse pas. Ce qui ne pousse pas, vous le coupez, mais cela ne repousse pas et c'est remarquable. Cependant, si vous prenez les branches qui ont produit des fruits et que vous les taillez, elles pousseront d'un mètre cinquante, d'un mètre quatre-vingts en un an, car elles sont vigoureuses et cherchent à pousser. Elles peuvent mesurer un mètre, vous les taillez, et l'année suivante, elles mesurent un mètre quatre-vingts. C'est ainsi que cela fonctionne en tant que chrétien. Dieu va nous tailler, vous et moi. Ces moments ne sont pas agréables. Si j'étais cette branche, je dirais, oh non, regardez, il arrive avec ses sécateurs, parce qu'à ce moment-là. Je suppose que si une branche pouvait parler, c'est ce qu'elle dirait. Mais une fois coupée, elle se dirait, oh, que s'est-il passé? Maintenant, je ne suis plus qu'un petit moignon. Eh bien, l'année suivante, lorsqu'elle aura atteint 2 mètres, ou 1 mètre 50, elle portera ses fruits, sans compter les fruits qui proviennent de cette branche. Dieu doit continuer à nous tailler, vous et moi. Il doit couper le bois mort, et il doit même tailler les zones où nous avons des fruits. Ainsi, même dans les domaines où vous avez des compétences, où j'ai des compétences, où il nous a donné des talents, cela ne fonctionnera pas toujours. Nous allons échouer dans les domaines où nous avons des talents. Dieu le fait intentionnellement. Alors, lorsque cela se produit, vous pensez, non, mais c'est un domaine dans lequel je peux servir, je suis très doué pour cela et je peux y travailler. Et Dieu vous répondra, non, je vais vous faire échouer. Je vais vous faire échouer. Je vais vous élaguer parce que je sais que vous pouvez aller là-bas et que vous essayez simplement d'y arriver. Vous dites, je peux y arriver. Je peux y arriver. Non, Dieu a dit, non, je vais vous élaguer parce que je vois jusqu'où vous pouvez grandir. Mais sans cet élagage, nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Nous devons donc endurer les revers et les déceptions, car c'est cela, la vie chrétienne. Vous et moi devons également endurer le temps et persévérer. En réalité, c'est la même chose. Le temps et la persévérance sont liés, car persévérer signifie intrinsèquement que cela s'étend sur une période de temps. À n'importe quel moment donné, vous pourriez être là. Nous parlons de la vérité présente. C'est donc un instantané dans le temps. Mais au fil du temps, nous devons persévérer dans la parole fidèle telle qu'elle nous a été enseignée. Il existe une vérité présente à mesure que nous continuons à grandir et à nous développer. Cette vérité présente est ce qui nous est enseigné. Je pourrais faire une digression et énumérer toutes les choses que vous et moi comprenons aujourd'hui et que nous ne comprenions pas il y a 7 ans, ni même lorsque j'ai donné ce premier message il y a 5 ans. Toute la compréhension qui nous est donnée grâce à Dieu qui a des ailes, au rôle de Père, à tant de choses auxquelles nous nous attachons. Nous venons d'imaginer un moment où le monde entier va connaître le royaume de Dieu. Le gouvernement de Dieu s'étendra sur toute la planète. Vous et moi dirigerons la planète, les nations, leur enseignant ce que vous et moi avons appris. Ils n'auront pas besoin de suivre une série prophétique pour apprendre la vérité de Dieu, car la vérité sera parfaite, car nous voyons clairement quand la perfection viendra, quand Christ viendra. Cependant, nous sommes actuellement dans le dernier grand jour, ce qui nous rappelle qu'il reste encore du travail à accomplir. Il ne nous reste que quelques heures, environ 2 heures et demie, un peu moins, avant le coucher du soleil. Ensuite, le dernier grand jour sera terminé, et nous pourrons profiter pleinement. Lorsque nous partirons tous aujourd'hui après notre cocktail, car chacun d'entre vous souhaite assister au cocktail, dernière occasion de vous convaincre, il fera nuit. Le dernier grand jour sera terminé. Nous devrons alors rentrer chez nous, mettre en pratique ce que nous avons appris et nous accrocher autant que Dieu nous accorde. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Commençons. Verset 7 d'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Mes frères, ce n'est pas un hasard si je me suis arrêté ici, car c'est ce sur quoi nous nous sommes concentrés ces 8 derniers jours, notre travail, notre collaboration, nos efforts, notre croissance et notre développement. Dieu dit, « Je connais vos œuvres. Il a vu ce que vous avez fait, ce pourquoi vous vous êtes battu, ce que vous avez aidé, servi, assisté, construit et organisé. Il a vu tout cela. » Et puis il dit, « Alors que nous rentrons chez nous après ce dernier grand jour, avec des projets pour que le travail puisse permettre à davantage de personnes de remplir les sièges vides, il dit, « J'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer, car vous avez peu de force. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous n'avons qu'un peu de dynamisme. Un peu de dynamisme, ce n'est pas si mal. C'est ce que signifie le mot grec. Et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils sauront que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Ou, pourrait-on dire, parce que tu as patiemment gardé ma parole. Nous avons mené la vie que Dieu voulait que nous menions au moment où il voulait que nous la menions. Aucun d'entre nous ne dirait qu'il souhaite le royaume de Dieu une fraction de seconde avant Dieu le Père. C'est une affirmation évidente, mais parfois, nous nous surprenons à devancer ce que Dieu le Père souhaite, n'est-ce pas? Nous avons gardé la parole de sa patience. Dieu montrera quand il reviendra, Christ montrera quand il reviendra, et nous pouvons travailler, nous efforcer, chercher et creuser. Et Dieu peut révéler des choses par l'intermédiaire de Monsieur Pâques d'une manière incroyable, grâce aux connaissances qu'il nous a transmises en nous engageant dans ce processus, ce voyage pour comprendre, essayer de déterminer quand Christ reviendra. Non, il nous a engagés dans ce voyage, non seulement pour nous tenir en haleine, pour être prêts et nous efforcer d'y parvenir, mais aussi parce qu'il avait besoin de restaurer complètement toutes les vérités qui n'étaient pas là, que vous et moi avons maintenant. « Tu as gardé la parole de ma patience », poursuit le verset 10, « Je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve, nous avons la priorité, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la face de la terre. Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Pas ma couronne, pas votre couronne, aucune de nos couronnes. Nous ne pouvons pas le faire. Nous devons garder la parole. Passons au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 22. Romains 8, 22. Le verset 22 dit, « Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. Même la création aspire au royaume de Dieu. À quel point? Oui, bien sûr, vous vous efforcez d'y parvenir. La planète le souhaite. Je n'avais donc peut-être pas tout à fait tort avec cette branche de péché. Elle aspire au royaume de Dieu. La planète en a besoin. » Passons au verset 25. Mais si nous espérons cela, nous ne le voyons pas, nous espérons le royaume de Dieu, nous espérons la vie lointaine, nous espérons cette période qui nous attend, alors nous l'attendons avec patience. Nous devons l'attendre de toute façon. Mais Dieu dit, non, faites-le avec patience, une patience satisfaite. Nous devons continuer, quelle que soit la durée de l'attente. Nous pouvons être satisfaits, nous pouvons être reconnaissants, mais sans ce multiplicateur, si vous voulez, qu'est-ce que l'endurance? Cela n'a aucun sens. Nous devons simplement continuer à attendre. Enfin, mes frères, nous devons persévérer. Mais réjouissons-nous alors que nous arrivons à la fin de la fête des tabernacles, à la fin du dernier grand jour. Réjouissons-nous pendant et à travers le travail que nous avons après la fête, car cela ne s'arrête pas là. Comme je l'ai déjà dit, cela ne s'arrête pas là. Vous et moi avons travaillé pendant 8 jours pour grandir, nous développer et changer qui nous sommes, devenir plus semblables au Christ, acquérir du caractère, mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à travailler individuellement, collectivement, à travers l'œuvre de Dieu, à travers la première commission. Et ensuite, nous devons maintenir cet élan. Lorsque vous rentrerez chez vous, souvenez-vous des personnes à vos côtés. Je sais que c'est toujours à la fin de la fête que l'on échange nos numéros de téléphone, nos adresses e-mail, nos comptes WhatsApp, nos réseaux sociaux, peu importe. Maintenez ces liens, car les gens vont retourner dans différentes parties du monde, et cette salle rassemble des personnes venues du monde entier. Vous avez noué des amitiés, vous avez établi de nouvelles relations. Ramenez-les chez vous et entretenez-les. Ne les laissez pas mourir, car nous devons nous édifier les uns les autres. Nous devons continuer à nous encourager mutuellement à faire de bonnes œuvres, surtout lorsque nous voyons le jour approcher, ce qui est le cas. Édifiez-vous les uns les autres. C'est facile à faire lorsque vous êtes face à face, ou que vous partagez un hôtel, que vous descendez dans le hall et que tout le monde est là. Non, maintenant, c'est plus difficile. N'oubliez pas que le travail devient plus difficile. Nous ferons la même chose ici. Avec le temps, nous créerons des outils qui vous permettront de rester plus connectés. Nous avons l'intention de transformer le team en quelque chose qui permettra aux frères d'être encore plus connectés, d'en faire plus. Il y a tellement d'aspects de ce travail que j'apprécie. Je remercie mes parents de m'avoir inculqué l'éthique du travail. Nous ferons donc notre part ici, mais vous devez mettre en pratique tout ce que j'ai dit dans le message sur les coulisses du travail. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien. Retournez dans vos congrégations locales avec un nouvel élan pour servir d'une manière que vous n'avez peut-être jamais pratiquée auparavant. Trouvez une nouvelle façon d'apporter un peu de l'ordre et de la décence que vous avez observé lors de la fête, et transmettez-les à votre congrégation locale. Parlez à votre pasteur et demandez-lui, « Comment puis-je aider et servir ?» Je réalise maintenant, après avoir assisté à la fête et vu ce que j'ai vu, que je pourrais faire plus. Dieu peut vous utiliser d'une manière que vous n'auriez pas imaginée. Étudiez et réfléchissez au sujet et au message que vous avez entendu. Utilisez-les comme sujet d'étude dans les semaines à venir. Ils vous permettront de rester spirituellement revigorés, car nous imaginons un moment où le monde entier sera spirituellement revigoré. Voici quelques versets simples sur la fête. Allez à Ésaïe 2. Cela s'applique également au dernier grand jour. Car souvenez-vous, c'est le jour où l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute l'humanité. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe 2, 2. Le verset 2 dit, et il arrivera, dans les derniers jours. J'apprécie beaucoup lire ce verset, car je sais que vous avez entendu Monsieur Pack le citer, et je me souviens qu'il y a des années, c'est ce qui a déclenché le processus. C'est ce qui a déclenché ce voyage sur le chemin qui nous a apporté une quantité incroyable de vérités et de connaissances extraordinaires. Être capable de comprendre le plan de Dieu, la portée de Dieu, ce qu'est Dieu, qui est réellement Dieu, comment il se manifeste, sa taille et sa portée. Continuons. Dans les derniers jours, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations afflueront vers elle. Le monde entier regardera cette montagne, ce gouvernement de Dieu, et affluera vers elle. Et beaucoup de gens iront et diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Et il nous enseignera ses voies. Le monde ne dit pas cela actuellement. Personne ne dit de l'autre côté de la rue, « Vous savez quoi ? J'aimerais que nous puissions simplement aller à l'église de Dieu restaurée. Elle est juste ici. » Des milliers de personnes se rendent chaque jour dans cette épicerie. Personne ne dit, « Vous savez quoi ? Si nous pouvions simplement remonter la rue, nous pourrions apprendre la vérité de Dieu. Nous pourrions apprendre à connaître la maison du Dieu de Jacob. » Personne ne le fait. Mais ils le feront. Mais ils le feront. Et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et la parole du Seigneur de Jérusalem. Verset 4. Il jugera entre les nations, et il réprimandera de nombreux peuples. Correction, il continuera à élaguer. Une réprimande est un élagage sévère. Il y a la correction, l'exhortation, la réprimande. C'est une forme d'élagage. Ce n'est donc pas nécessairement une mauvaise chose, c'est pour attirer l'attention des gens. Vous ne le souhaitez pas. Mais il réprimandera de nombreux peuples, et ils transformeront leurs épées en socs de charrue, et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et elles n'apprendront plus la guerre. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. C'est la raison pour laquelle vous avez appris ce que vous avez appris pendant ces 8 jours. C'est pour cette raison que vous avez travaillé dur pour participer à tout, pour absorber, expérimenter et approfondir tout ce que vous avez fait pendant la fête des tabernacles et aujourd'hui, en ce dernier grand jour. C'est pour cette raison que ces 8 jours sont si cruciaux, car vous allez enseigner à ces personnes. Vous allez leur enseigner. C'est ce que Dieu voit que vous pouvez accomplir. Si nous sommes humbles, Dieu dit, « Je ferai de vous le plus grand enseignant que le monde ait jamais connu. » Nous pouvons le faire comme Dieu. Un jugement parfait, une sagesse parfaite, une paix parfaite, mais nous ne pouvons pas nous arrêter lorsque le soleil se couchera ce soir. Nous ne pouvons pas laisser s'estomper tout le renouveau spirituel que nous avons connu, la compréhension, l'inspiration, l'amitié, la fraternité, l'amour fraternel. Nous sommes fatigués. Nous sommes certainement fatigués. Nous nous sommes certainement amusés. Nous avons vécu tant d'aventures, de moments de communion et de temps ensemble. Il est normal d'être triste de partir. Je suis vraiment heureux que nous ayons entendu aller donc dans le monde plutôt dans le service, et non pas comme dernier cantique, car cela me touche à chaque fois. Il est donc normal de ressentir cette émotion de voir vos amis, votre famille, partir chacun de leur côté. Cependant, nous vivons dans un monde qui s'est rétréci, ils ne sont donc pas obligés d'aller très loin. Souvenez-vous, dans Matthieu, il est dit, ouvrons notre Bible, dernier verset, Matthieu chapitre 24. Vous le connaissez par cœur, mais il est bon de le lire. Matthieu 24, verset 13. Nous l'avons lu une fois, nous allons le relire alors que nous approchons de la fin. Matthieu 24, verset 13. Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères, la persévérance, Le contentement et la gratitude sont essentiels pour que vous et moi puissions entrer dans le royaume de Dieu. Alors, persévérez à travers les épreuves, les revers et les distractions. Utilisez ce qui a été mis à votre disposition, dans votre arsenal, dans votre boîte à outils tout au long de la fête des tabernacles. N'oubliez pas que nous imaginons un temps où le monde entier fera l'expérience de ce que nous avons, mais le royaume n'est pas encore là. Nous devons attendre, nous devons travailler, nous devons persévérer. Demandez-vous à nouveau, que retiendrez-vous de cette fête? Allons-nous continuer? Comment allons-nous continuer à servir, à grandir, à persévérer jusqu'au retour du Christ? Assurez-vous que tout ce que vous avez acquis pendant la fête des tabernacles, tout ce que vous avez acquis au cours de ces 8 jours, ne soit pas perdu. Mais maintenant, le vrai travail commence. Lorsque vous rentrerez chez vous et reprendrez votre routine quotidienne, votre vie, vous devrez maintenir cet élan. Vous devez conserver votre enthousiasme. Nous ferons notre part pour vous expliquer en quoi consiste le travail afin que vous compreniez ce dont vous faites partie. Cependant, comme je l'ai dit au début de ce message, la fête est presque terminée et le véritable travail commence maintenant. Frères en Dieu, je sais à quel point vous avez travaillé dur pendant cette fête, alors continuons à travailler jusqu'à ce que vous et moi voyions Jésus-Christ et entrions dans le royaume de Dieu.